Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque, bienvenue dans Somniloque et aujourd'hui le noir et blanc. Oui, non, on ne va pas s'embarrasser d'introduction digressive, cette fois-ci en tout cas, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein. Avant-dernier épisode de ce format, dont l'arrêt évidemment ne signe pas l'arrêt complet de ma présence sur les internets pour parler de cinéma et encore moins en podcast, même si je sais que ça ferait plaisir à certains saligauds, je vous vois. Mais non, bien sûr que non, c'est simplement une page qui se tourne, pleine de promesses, d'espoir en l'avenir, et pour bien coller justement à toutes ces perspectives de bonheur et à la vie en rose qui s'annonce, eh bien vous avez choisi de que l'on plonge ensemble dans la morosité, hein, ambiante, en décidant de voir le monde un petit peu en noir et blanc cette fois-ci. Voilà, c'est le sujet pour lequel vous avez majoritairement voté cette semaine sur mes réseaux sociaux, @dexelecinéma le cinéma sur Twitter et Instagram. Alors écoutez, bah allons-y gaiement et plongeons ensemble dans ces 50 nuances de gris pour parler un petit peu de cinéma à cette heure tardive. J'espère que vous êtes confortablement installé dans votre lit, prêt à en prendre plein les oreilles et à accéder à un contenu intello porté par des problématiques qui finalement n'intéressent que moi. Hein. Voilà, c'est une sorte de plaisir hein, que je prends à me poser des questions que personne ne se pose et qui n'ont peut-être, je dis finalement, aucun intérêt à être répondu. Donc dans ce sens, c'est peut-être une bonne chose que l'émission s'arrête. Mais écoutez, je vais poursuivre ce plaisir encore 2 épisodes. Voilà, pour me réconforter un petit peu de l'existence tragique que nous sommes tous en train de mener. Donc le noir et blanc au cinéma, c'est un sujet que je vous ai proposé, vous l'avez remarqué, relativement tardivement dans les votes, en fait, parce que je ne savais pas exactement comment le traiter dans la mesure où ce sujet, il est né en fait lors de mon visionnage du film Mank de David Fincher et du paradoxe que je voyais en fait à travers ce film dans l'utilisation contemporaine, on va dire, du noir et blanc. Mais je ne savais pas encore vraiment comment aborder véritablement ce sujet et comment est-ce que, en l'analysant, on pouvait pointer du doigt, en fait, des ramifications plus générales qui nous permettaient de parler de cinéma dans sa globalité, ce qui est quand même un petit peu l'enjeu et l'objectif de cette émission. Et au fur et à mesure que j'y réfléchissais, en fait, j'ai réussi à mettre le doigt, je crois, sur ce qui, moi, me posait problème à travers le choix de David Fincher dans le film Mank, qui était de retourner au noir et blanc, et au-delà même du fait de retourner au noir et blanc, d'adopter en fait une esthétique, de faire une proposition esthétique qui était à contre-courant des évolutions technologiques du cinéma, ce qui, en fait, peut paraître totalement contradictoire avec ce qu'est le cinéma dans son essence même. En fait, le cinéma, à contrario de beaucoup d'autres arts, est un art qu'on qualifie de mécanique, c'est-à-dire que c'est un art qui a besoin de la technologie pour exister. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, schématiquement, il y a des ingénieurs qui mettent au point des appareils mécaniques de pure ingénierie, et après, en fait, si vous voulez, les artistes se saisissent de cette ingénierie et la transforment en mode d'expression. C'est-à-dire que l'objet cinématographique n'est plus seulement utile, il devient esthétique, et on se sert d'une invention technologique pour promouvoir une proposition esthétique. Et ce qui est très intéressant, donc, dans cette logique d'art mécanique, c'est que on peut penser a priori que, au fur et à mesure que la technologie avance, eh bien, les possibilités, en fait, de proposition esthétique que l'on peut offrir aux spectateurs deviennent, un, de plus en plus performantes, et deux, de plus en plus diversifiées, avec une quête absolue de plus en plus grande fidélité au réel, fidélité à ce qui est filmé, et donc, et bah pourquoi est-ce que aujourd'hui, lorsqu'on a des caméras 8K qui filment à 160 images par seconde, et évidemment en couleur troutonne, avec un spectre des couleurs visibles qui est pas encore équivalent à l'œil humain, mais en tout cas voilà, on s'en rapproche petit à petit, pourquoi donc est-ce que j'irais tourner en noir et blanc pellicule 16 mm? Alors on pourrait très simplement répondre à cette question en disant « Bah écoute, j'ai envie de tourner en pellicule 16 mm noir et blanc, parce que c'est beau ». Voilà, parce que c'est stylé, parce que voilà, je suis un peu un hipster, et voilà, et c'est vintage, tu vois. C'est vintage, tu vois, c'est la fameuse fétichisation du vintage qu'évoquait dans son interview Combini le réalisateur Jacques Audiard. Je vous invite à regarder cette vidéo-là en particulier, le vidéoclub de Jacques Audiard de Combini, parce qu'elle est très intéressante, en fait, pour cerner la position. Alors, c'est la sienne, hein, bien sûr, mais moi, je la prends comme point de départ parce que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. La position d'un réalisateur contemporain assez majeur, hein, voilà, qu'on aime ou pas le cinéma de Jacques Audiard, c'est quand même quelqu'un qui est très important dans le rayonnement aujourd'hui culturel et cinématographique à l'échelle mondiale et à l'échelle française en particulier. Et c'est donc quelqu'un en fait qui critiquait la fétichisation des cinéastes contemporains à vouloir absolument tourner en pellicule alors que, mais les gars, on a tous les outils numériques, on a les outils de montage numérique, les outils de captation numérique, on peut en plus avec des capteurs numériques reproduire les images d'époque un peu chelou en mettant des objectifs anciens sur des caméras modernes pour créer une image nouvelle, etc. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on adopterait une sorte de, bah qualifions-la de Zemmour Touch, hein, en disant mais c'était mieux avant en fait. Le cinéma c'était mieux avant. Le cinéma c'était mieux avant quand c'était en noir et blanc, que c'était moche et que les gens ils étaient pas en train de se dire ouais on va développer des techniques pour permettre aux réalisateurs et aux réalisatrices d'encore plus développer leur conception du cinéma. Ce qui en plus est assez contradictoire avec le rapport qu'a entretenu le cinéma lui-même à sa propre technologie et notamment à la couleur. Parce que, évidemment, vous vous en doutez, on ne peut pas faire autrement. On va passer dans cet épisode par un bref rapport historique à ces questions-là, la question de la couleur et du noir et blanc. Alors, la première chose qui est très importante à rappeler, c'est que l'idée qu'il y a une scission entre le cinéma noir et blanc et le cinéma couleur, c'est une idée qui est totalement fausse. La captation cinématographique au départ, évidemment, avec l'invention du cinématographe, etc., ne pouvait se faire qu'en noir et blanc, mais la diffusion des films en eux-mêmes n'était pas nécessairement en noir et blanc. En fait, dès l'invention et dès les films de Méliès en particulier qui ont beaucoup utilisé cette technique, il y a des méthodes qui sont utilisées, qu'on appelle le teintage et le virage. Alors c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le teintage et le virage, c'est des façons de colorer la pellicule, et en fonction de la technique que tu emploies, tu ne colores pas les mêmes zones de l'image. Parfois, tu colores les zones de lumière, et d'autres fois, tu colores les zones d'ombre, donc ça ne donne pas du tout le même effet dans l'image. Mais dès le départ, dès l'invention du cinéma, parce que l'invention du cinéma, voilà, on en avait parlé dans les origines du cinéma, elle se fait en fait dans un objectif, dans un mouvement humain qui est de capter le réel. Et le réel, il n'est pas en noir et blanc. Donc il est tout à fait logique que dès l'origine, on cherche à aller vers la couleur. Et on l'a fait immédiatement. Et même au-delà de ça, donc au-delà du fait que la couleur et on est en quête de la couleur dès le départ, d'abord en traitant la pellicule, mais le fait de traiter la couleur au moment de la captation, c'est quelque chose qui se fait dès 1916. En fait, avec le processus du Technicolor, qui voilà, vous savez ce que c'est le processus qui permet de filmer en couleur sur pellicule, qui va devenir majoritaire bien plus tard, hein, au début des années 50 a priori, mais qui existe dès 1916 avec un procédé qu'on appelle le procédé bichrome, d'abord additif puis soustractif. Alors voilà, on va pas rentrer dans les détails encore une fois techniques, mais en fait, en gros, pour faire un très très bref résumé du truc, en fait, ça veut dire qu'on imprime le film sur deux pellicules différentes, le processus bichrome, de deux couleurs différentes, complémentaires évidemment, et en fait, on va les diffuser, superposer l'une à l'autre, et du coup, ça va recréer l'illusion de la couleur par addition. Voilà, ça c'est le principe du processus, pour redonner en fait l'idée de la couleur qu'on aura eu du mal justement à obtenir lors de la captation. Donc ça, ce processus-là, il existe dès 1916. Alors évidemment, il marche très mal, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il coûte beaucoup trop cher, donc il n'est pas du tout adopté de façon générale, mais cette idée, elle est là, elle est toujours là, et elle va commencer à créer une scission qui est d'autant plus intéressante, c'est l'idée qu'en fait la couleur c'est un truc de riche. Bah ouais, parce que dès le départ en fait, quand dès 1900 vous voulez teinter, virer, voilà les images, et qu'après en plus vous cherchez à la captation à utiliser la méthode du Technicolor, bah c'est que vous avez de la thune en fait. C'est que vous avez de la thune, et cette idée de l'argent, elle se retranscrit par le fait que les premiers grands films, ce que j'appelle les grands films, entendons-nous bien, c'est pas les films importants, mais les films qui ont été retenus par le public au moment où la couleur émerge, ce sont des super productions. Alors évidemment, parce que le processus Technicolor lui-même coûte beaucoup plus cher que le processus de traitement de l'image en noir et blanc, mais pour une deuxième raison, c'est à cause justement du retard technologique en fait de la couleur par rapport au noir et blanc. Et ça, c'est quelque chose que lorsque je l'ai appris, qui m'a beaucoup intéressé en fait, parce que je me suis dit, ah mais ça explique pourquoi on a eu des films en noir et blanc aussi longtemps. En fait, après l'évolution de la couleur. Parce que, eh ben, la pellicule dont on se servait lors du procédé Technicolor, eh ben, elle était beaucoup plus difficile à impressionner, c'est-à-dire que la quantité de lumière que vous devez mettre sur le sujet pour que ce soit imprimé sur la pellicule, en passant par l'objectif, eh ben, elle était beaucoup plus grande. Ce qui veut dire, on en revient à la question de l'argent, que si vous vouliez tourner en couleur, eh ben vous aviez besoin de beaucoup plus de lumière que si vous deviez tourner en noir et blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous aviez besoin d'un budget éclairage, que tous les films n'avaient pas. Et c'est là où ça devient absolument passionnant et où on voit toutes les ramifications et toute la coexistence qu'il y a entre les conditions matérielles, financières et la créativité. Parce que du coup, les cinéastes, lorsqu'ils voulaient faire des films et qu'ils n'avaient pas d'argent, eh ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, ils tournaient évidemment en noir et blanc, parce qu'ils n'avaient pas le budget. Mais du coup, le noir et blanc était une revendication de liberté. Parce que forcément, qui dit budget moindre, dit pression des studios moindre, dit contrôle artistique moindre, et du coup, on parle évidemment de la nouvelle vague, mais en tout cas, c'est de ça dont je suis en train de vous parler à demi-mot. La revendication de l'usage du noir et blanc était un acte politique pour les cinéastes. C'était un acte de liberté. Et si on fait un parallèle aujourd'hui, pour reprendre un petit peu cette idée que voilà, les studios font pression et nous on n'a pas besoin de matériel pour faire des films et du coup on va volontairement utiliser, enfin volontairement et involontairement on s'entend bien, utiliser un matériel de moindre facture, bah c'est un petit peu, on peut dresser un parallèle avec les cinéastes qui aujourd'hui tournent des films au téléphone, tournent des films avec des appareils de captation bien moins performants que des Alexa, des Sony Vegas, etc. C'est un petit peu la même logique en fait. Le noir et blanc, à travers son histoire et la façon dont les cinéastes se le sont réappropriés, témoigne en fait de la question d'un affrontement économique entre les producteurs et les cinéastes, les réalisateurs, les réalisatrices, et l'impulsion de liberté totale qu'il y a dans l'acte même de tourner avec un budget moindre et avec une technologie moins performante, ou en tout cas, sinon moins performante, moins stylée. Quoi. Voilà, c'est non mais disons-le comme ça, parce que voilà, les caméras aujourd'hui, elles permettent de tourner en 4K, etc. Mais ça se voit tout de suite. Quand on tourne avec une caméra de moindre puissance que des caméras cinéma, ça se voit immédiatement. Et c'est là où faire cette rétrospective historique bah, trouve un peu tout son sens, c'est qu'on pourrait se dire que l'application de techniques de cinéma anciennes, comme le noir et blanc, aujourd'hui, c'est une façon pour les cinéastes de, bah de s'inscrire un petit peu voilà, dans cet héritage de liberté, comme une sorte de revendication, de filiation, qu'on pourrait retrouver chez des cinéastes, du coup, pour citer trois exemples vraiment différents, on pourrait retrouver ça dans Le Ruban Blanc de Michael Haneke, dans Mank de David Fincher, donc, et dans Malcolm et Marie, film qui est sorti récemment sur Netflix et qui est tourné en noir et blanc. Mais là où ça devient un peu plus subtil, c'est que bah pour moi, cette explication, elle ne se justifie pas. Elle ne se justifie pas dans au moins deux cas. Le premier, c'est évidemment le cas de Mank, le film que j'ai mis en exergue pour cet épisode, qui est un film qui a coûté excessivement cher. Donc, ça paraît un petit peu contradictoire quand t'as un budget de plusieurs millions, dizaines de millions de dollars, de tourner un film en te disant « Non, mais en fait, je m'ancre dans la tradition de ceux qui faisaient leurs films avec des cacahuètes. » Voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu dégueulasse, en fait, même de s'ancrer dans cette tradition, Et puis, surtout, autant revendiquer l'usage du noir et blanc parce que tu rentres dans une filiation de liberté artistique, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, si tu utilises le noir et blanc avec les technologies d'aujourd'hui, eh bah, ben, éclaire ton film correctement. Et le fait est que, en tout cas, c'est le constat que je fais, la plupart des films en noir et blanc aujourd'hui ne sont absolument pas éclairés correctement. Quand tu vois Malcolm et Marie, moi c'est un truc qui m'a beaucoup frappé en regardant ce film. C'est un film qui est super moche, en fait, au niveau de son éclairage, au niveau de sa gestion des noirs profonds, des zones de clair, des nuances de gris. C'est un film, en fait, où le noir et blanc, pour moi, c'est un filtre Instagram, en fait. C'est la revendication du fait que, ouais, on va le mettre en noir et blanc parce que c'est stylé. C'est-à-dire une revendication un petit peu de hipster. Le noir et blanc n'est absolument pas un propos. Et bah c'est quand même, en tout cas, je me vois. Alors ça fait un peu vieux con et mec qui juge tout le monde du haut de sa tour, mais en même temps, n'est-ce pas ce que l'on est? C'est pour ça qu'on parle de cinéma à cette heure tardive, hein, bien sûr. C'est pour aussi la revendication d'un certain élitisme, n'est-ce pas? C'est quand même la plupart du temps l'usage du noir et blanc. Ben, un pauvre filtre Instagram qu'on ajoute sur l'image et qui n'est pas un propos. Et moi, je trouve ça tragique, bien sûr. Je trouve ça tragique parce que, à contrario, on a des films comme Michael Haneke qui nous foutent du noir et blanc. Alors, on pourrait faire une lecture un petit peu des, ouais, le noir et blanc, l'austérité, Autriche, austérité, Allemagne. Voilà, il y a filiation, on va dire. Voilà, y a une filiation. Ceux qui s'intéressent à la politique économique de l'Europe comprendront ce que je veux dire, comprendront la blague. Mais dans le cinéma de Michael Haneke, évidemment, le noir et blanc a toute sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a la revendication d'une dureté, parce qu'il y a la revendication d'une complexité humaine, de la question de la dualité. Voilà, dualité noir, blanc, etc. Enfin, disons que il y a une logique profonde qui en tout cas s'explique par l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que quand tu regardes l'œuvre elle-même, tu dis ok, je comprends pourquoi c'est en noir et blanc. Il n'y a pas de souci, c'est dans son ADN, ça se voit que c'est totalement intégré à la démarche de l'œuvre. Quand tu regardes Mank, non seulement pour moi, c'est un pur effet de style qui ne se justifie pas artistiquement, c'est-à-dire que dans la patte même du film, dans la substance même du film, le fait que le film ait été tourné en noir et blanc ne se justifie pas. Moi, c'est la position que je défends. Mais surtout, moi, ce qui m'énerve profondément lorsque je vois ça, c'est qu'on parle de David Fincher. David Fincher qui a totalement construit sa carrière, en fait, sur l'exploitation du numérique comme possibilité de narration, comme possibilité de raconter ses histoires, et qui a totalement embrassé l'évolution du cinéma, qui a totalement revendiqué à travers sa mise en scène la nécessité pour le cinéma d'évoluer en permanence pour offrir justement aux réalisateurs la possibilité de s'exprimer le plus pleinement, justement, et de pouvoir donner vie à sa vision de la façon la plus complète possible. Et le voir ainsi régresser, pour moi, est incompréhensible. Et même, je vais le dire quand même, moi qui suis un très grand fan de David Fincher, moi ça m'a fâché avec son cinéma de le voir adopter justement ce que j'appelle moi une régression, parce que c'est de ça dont il s'agit, selon moi. Je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'un artiste peut se renier lui-même, sinon avec un cynisme extraordinaire de se dire, bah, je vais utiliser les techniques du numérique pour singer l'ancien. Et en fait, par une espèce de retournement, c'est en fait, ah mais du coup, c'est dans la continuité de mon propos, parce que les technologies aujourd'hui permettent de singer l'ancien aussi bien que l'ancien aurait été fait. Ce qui, pour moi, est un dévoiement de l'idée même du cinéma. Et c'est en ça que Mank est un film que j'ai détesté, parce que c'est un film qui a un propos sur le cinéma qui ne me plaît pas du tout. Et qui est d'un cynisme et d'une sorte de négation de ce qu'est le cinéma, ou en tout cas de la vision que j'en ai. Le cinéma évolue, a évolué, et je trouve ça tragique, en fait, que cette liberté soit mise au service d'une régression, d'une fétichisation, pour reprendre les mots de Jacques Audiard. La pellicule appartient au passé. Et le noir et blanc encore plus. À moins, bien sûr, encore une fois, que la question du noir et blanc s'ancre dans une logique esthétique qui soit parfaitement cohérente avec l'œuvre, ce qui n'est majoritairement pas le cas. Et je désespère, moi, de constater à travers cet usage du noir et blanc à l'époque moderne, bon, ce qui est assez rare en fait, mais à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher d'y penser, j'ai l'impression d'assister à une sorte, pour tout un tas d'autres raisons, à une sorte d'instagramisation du rapport des cinéastes et des directeurs de la photographie à l'image. Et c'est quelque chose qui, certes, fait sans doute partie de l'évolution aujourd'hui de notre rapport à l'image, et donc bah, le rapport que les artistes ont à l'image qu'ils nous proposent forcément évolue en même temps que nous, spectateurs, les outils que l'on a à notre disposition et comment notre rapport à l'image est transformé par les réseaux sociaux, par les outils grand public de retouche, etc. Mais constater une évolution ne nécessite pas forcément, en tout cas, de l'embrasser dans tous ses aspects, parce que ça peut être bah finalement quelque chose de négatif par rapport à un art que l'on défend et qu'ils défendent eux aussi. Mais je considère, en tout cas, que adopter le noir et blanc ainsi par une sorte en fait de posture, parce que ce qui est tragique là-dedans, c'est de voir un artiste se complaire dans une technique qu'il n'emploie plus pour s'exprimer, mais qu'il emploie pour dire « Ah, c'est cool ». Et ce qui est tragique, en fait, pour moi, là-dedans, c'est qu'à partir du moment où un artiste se met à utiliser une technique en disant « C'est cool », et que cette technique ne se justifie pas artistiquement, bah, il régresse, en fait, dans sa potentialité d'artiste, dans la potentialité qu'il donne à ses œuvres. Et faire un harakiri artistique comme l'a fait Fincher avec Mank, je ne suis pas certain que ce soit une très très bonne nouvelle pour la suite de sa carrière. En tout cas, nous verrons tout ça. Écoutez, même si évidemment je ne vais pas tirer de plan sur la comète et dire non, mais de toute façon tout est joué, Fincher ne va plus faire que ça, etc. J'insiste beaucoup sur lui, mais parce que c'est un cinéaste que je portais très haut et qui pour moi là vraiment vient de tomber plusieurs marches en dessous du piédestal où je l'avais mis. Et à voir la façon dont le cinéma évoluera dans ce rapport à l'image, mais la démocratisation et l'usage du noir et blanc aujourd'hui ne me semblent pas de très bon augure sur la génération de cinéastes qui arrivent. Je préfère de loin voir des cinéastes, pour citer un contre-exemple à tout ça, comme James Cameron par exemple, qui revendique absolument l'usage de la nouvelle technologie, que quelqu'un qui se dit « Ah, je vais tourner avec une vieille caméra noir et blanc 16 mm en 2021 », parce que ce sera cool. Voilà, c'était le podcast du vieux con. Merci de l'avoir suivi. Non, évidemment, il y a une forme de vieux con dans tout ce que j'ai dit et dans l'opinion que j'ai défendue, mais fondamentalement, je crois sincèrement à ce que je dis. Et parfois, il faut aussi être un vieux con. C'est le signe du passionné, parfois, de se montrer un petit peu rancunier face à ce que font les gens aujourd'hui et dire parfois, oui, c'était mieux avant lorsque les cinéastes embrassaient la nouveauté et n'avaient pas peur, justement, de se frotter aux nouvelles technologies pour développer quelque chose d'infiniment plus beau et plus puissant, qui est de revendiquer le cinéma comme une continuité et d'essayer d'entrevoir son futur plutôt que de s'attacher obstinément à son passé. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, bien sûr, hein, les commentaires sont là pour ça, pour qu'on puisse discuter de tout ça, pour que vous puissiez, si vous ne pensez pas pas du tout la même chose que moi, eh bien construire justement cette opposition à travers les arguments que j'ai pu donner. Et si vous êtes d'accord avec moi, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne nuit et de faire de très beaux rêves si vous m'écoutez avant de dormir. Et si vous m'écoutez en plein jour, et bah finalement c'est plutôt une bonne chose que l'émission s'arrête, hein. Ça veut dire que vous n'en avez absolument rien à foutre du concept de ce podcast et qu'il était temps d'y mettre un terme parce que voilà, je vous aime, hein, mais quand même il y a des limites. Merci à tous de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Somniloque sur un sujet imposé. Salut tout le monde.